Acabé shooting the show.
Digo de Radio France Internationale.
Cidre.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde qui fait son retour après l'été. L'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Hermine Roumilac de la rédaction chinoise.
Bonjour, Ira.
À propos du sommet Chine-Afrique à Pékin. Pour la rédaction en espagnol, Asbel Lopez.
Hola.
Vous nous parlerez d'une réforme de la justice au Mexique qui ne fait pas l'unanimité. Et puis Denis Strelkov de la rédaction russe.
Добрый вечер.
Pour un nouveau point sur la guerre en Ukraine avec ce qui se passe actuellement dans l'est du pays. Ce qui fait la une de l'actualité en France, c'est la nomination d'un Premier ministre après des dizaines de jours d'attente depuis les élections législatives. Alors, Denis, à la rédaction russe, vous avez bien évidemment suivi de près la nomination de ce chef du gouvernement, car la politique française passionne les Russes depuis toujours. Pour quelle raison ?
C'est peut-être lié au fait que dans la Russie d'aujourd'hui, il est très difficile, voire impossible d'imaginer un tel scénario. Écoutez, plus de 50 jours sans gouvernement, avec un suspense inédit, les nombres de candidats à la matinée changer à la vitesse de l'éclair, une situation qui reste très difficile à expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant de toutes les péripéties de la politique française. Et je vous assure, Philippe, que même en France, quand je parlais avec des gens, certains ne comprenaient toujours pas ni le sens de la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, ni comment ça va fonctionner par la suite. Face à cette décision qui est digne d'un film, la presse russe parlait d'Emmanuel Macron face à un arbitrage compliqué, face à un impasse politique, mais ce qui souligne à la fois la propagande russe et la presse indépendante, c'est que la France en sort divisée avec la gauche déçue qui se croit insultée par la décision du président de la République. Les manifestations de la gauche sont prévues ce week-end dans la capitale avec une tentative de destitution du président lancée par la France insoumise qui n'a par ailleurs pas de chance d'aboutir.
Est-ce que Michel Barnier est connu en Chine, Hermine ?
Non, pas vraiment. Malgré sa riche expérience dans la politique française et dans l'Union européenne, M. Barnier est relativement mal connu en Chine, surtout si on le compare avec les anciens premiers ministres comme Jean-Pierre Farafarin ou Dominique de Villepin, qui eux sont très très populaires en Chine. Donc pour sa nomination à Matignon, l'accent de la presse en Chine est mise plutôt sur le fait qu'il avait dominé les échanges sur les négociations de Brexit, que nous avons aussi largement couvert à l'époque.
Et en Russie, est-ce que le nom de Michel Barnier et son parcours politique évoquent quelque chose ?
On a l'impression plutôt que les journalistes russes ne le connaissent pas très bien pour l'instant. Oui, comme ça vient d'être dit, on souligne son rôle dans le processus de Brexit, son engagement au sein des institutions européennes, également sa capacité d'instaurer un dialogue entre les personnages politiques qui n'ont pas forcément beaucoup de choses en commun. C'est un commissaire européen aguerri, Michel Barnier, ne va pas changer le cap géopolitique de la France non plus, pensent aussi les experts russes. Pas de promesse d'amitié avec Moscou, mais pas d'hostilité non plus. On peut dire qu'avant de se lancer dans les polémiques, les propagandistes russes sont pour l'instant en attente des premières actions de la composition du gouvernement piloté par Michel Barnier.
Eu égard à son long parcours politique et parce qu'il est âgé de 73 ans, Asbel Lopez, un député du RN, a qualifié le Premier ministre de fossile de la vie politique française.
Et c'est vrai, mais le vieux monde a aussi ses atouts. L'extrême droite ne sont pas, par exemple, que Barnier ait maltraité ses électeurs. Rappelez-vous qu'un autre candidat au poste de Premier ministre, également de droite, a été rejeté d'emblée après avoir été accusé d'avoir vomi sur les électeurs du Rassemblement national. Pour une raison ou une autre, Le Pen estime que Barnier respectait ses électeurs. Il est vrai que pour certains spécimens de vieux monde, faire de la politique consiste à attaquer des idées, pas des personnes. Exposer des arguments en laissant de côté d'autres considérations, comme celle d'incarner le bien contre le mal, par exemple. Il incarne une forme d'apaisement, une denrée rare ces derniers temps dans la vie politique française.
Hermine, vous nous disiez que tout cela ne faisait pas forcément les choux gras de la presse chinoise. Cela dit, vous avez fouillé un peu et il y a quand même une action de Michel Barnier avec la Chine.
Tout à fait. Et il faut vraiment fouiller. Donc, on remonte un peu le temps. C'était il y a 20 ans, en 2004, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères au gouvernement Raffarin, à la veille de l'ouverture de l'année de la culture française en Chine, à l'occasion justement de 30e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques des deux pays à Pékin. M. Barnier a annoncé le programme d'échange culturel des deux pays. Et donc, à l'époque, l'époque, il a avancé sur la technologie ou la culture française. Mais 20 ans plus tard, son rôle a évolué et le rapport des forces entre les deux pays aussi. Donc, il va devoir faire face à une Chine complètement métamorphosée par rapport à l'époque, qui défie la France et l'Union européenne dans plein de domaines. En tant que Premier ministre, il devrait prendre position sur les relations avec la Chine. Et il est très intéressant d'observer qu'il a été ministre, je l'ai dit, du gouvernement Raffarin, qui lui est connu pour avoir des très bonnes relations avec le gouvernement chinois.
Asbel, il est en train de travailler en ce moment, Michel Barnier, à la composition de son gouvernement pour éviter la censure au Parlement. Mais pour l'instant, il peut compter sur le soutien tacite de l'extrême droite.
En effet, mettons de côté un instant le fait qu'un gouvernement Barnier est à la merci de l'extrême droite. Marine Le Pen a déjà dit qu'elle attendrait le discours de politique générale pour décider si elle soutient ou non une motion de censure. Oui, ce nouveau Premier ministre est assis sur un château de cartes. Mais si l'on oublie cette épée de Damoclès, Barnier est peut-être la meilleure carte de Macron en ce moment.
Et puis il faut dire que le chef du gouvernement a eu l'occasion de durcir son discours sur l'immigration par le passé.
Oui, en effet. Il apprenait un moratoire sur l'immigration. Lui, l'Européen convaincu, est même allé jusqu'à remettre en question la Cour européenne de justice au nom de la souveraineté juridique. L'un des défis majeurs pour Barnier sera de rester au centre droit sans céder à l'extrême droite. Sur ce sujet de l'immigration, comme sur bien d'autres, le prochain budget, par exemple, la priorité des priorités. C'est pour cela que sa mission semble titanesque et les peaux de banane nombreuses.
Et après-demain, Dimanche politique sur RFI reviendra bien sûr sur la nouvelle donne politique en France.
This is Radio France International.
Paris, RFI, $100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Près d'un mois après le début de l'incursion de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk, la Russie est parvenue à arrêter l'avancée de Kiev, mais elle n'est pas parvenue à reprendre son territoire. Plus de 1000 km² sont toujours sous contrôle de l'Ukraine, ce qui suscite l'inquiétude, voire la peur de la population. Mais cette avancée, est-ce que c'est un succès ou un pari très risqué de la part de l'Ukraine ? Des questions que je vous pose, Denis Strelkov. Faisons tout d'abord un point avec vous.
C'est la première incursion militaire étrangère sur le sol russe depuis 1945, à la fin de ce qu'on appelle en Russie la Grande Guerre patriotique. L'armée ukrainienne a franchi la frontière le 6 août, toujours il y a un mois jour par jour. Mais l'avancée rapide de ces soldats n'a duré que quelques jours, en fait, avant que les Russes n'arrivent pas à s'organiser pour créer des lignes de défense que l'Ukraine ne peut franchir qu'en s'engageant dans les batailles sanglantes, longues et dures. L'Ukraine a pu avancer en Russie grâce à la stratégie de la guerre de manœuvre. Les Russes n'attendaient pas du tout cette incursion. Le champ de bataille était laissé libre avec plusieurs trous dans la défense. Les troupes russes étaient à ce moment engagées plutôt dans des régions ukrainiennes de Donetsk et de Lugansk. L'Ukraine a utilisé une tactique très efficace. Les petits groupes sur des voitures blindées avançaient en profondeur sans bataille et coupaient des lignes d'approvisionnement. En plus, les Ukrainiens ont pu brouiller les communications des Russes avec l'aide de l'équipement militaire étranger. Donc impossible pour eux de communiquer, ce qui créait des vraies difficultés pour s'organiser.
Autre point important, les troupes ukrainiennes ont pu isoler un groupe de militaires russes, entre 2 à 3 000 soldats, et c'était du côté de Glushkovo.
Oui, effectivement, c'est quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Pour approvisionner ce groupe, il faut passer forcément par les ponts sur la rivière de Seym. Il y en a 3, sauf que l'Ukraine les a détruites. Mais l'armée ukrainienne, pour l'instant, n'avance pas vers la ville de Glushkovo elle-même. Elle est à 10 km. On pourrait supposer que le plan de l'Ukraine, c'est de laisser l'ennemi bloqué, essoufflé, partir sans bataille.
Denis Strelkov, l'un des buts militaires de l'opération dans la région de Koursk, dont Volodymyr Zelensky a parlé, c'est de ralentir la progression russe dans le Donbass. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Si on y croit aux chiffres, Philippe, c'est raté de leur part. En août, la Russie a capturé 355 km² de l'Ukraine. C'est la progression mensuelle la plus grande depuis un an. On est quand même loin de l'effondrement du front, mais la Russie continue à s'approcher de la ville de Pokrovsk dans le Donbass, une ville qui est un nœud logistique dont l'effondrement pourrait mettre l'armée ukrainienne en difficulté, même si la Russie a dû, selon l'Ukraine, envoyer 60 000 soldats dans les zones de course. Cela n'a visiblement pas affaibli à un tel point que l'avancée s'arrête net.
Sait-on si la Russie a convoqué de nouvelles recrues suite à cette intrusion de l'Ukraine?
Oui, Philippe, il ne faut pas pourtant minimiser le succès et l'ampleur de l'attaque ukrainienne. Selon le journal The Independent, qui cite une source proche du commandement ukrainien, l'Ukraine a pu prendre 2000 soldats russes comme prisonniers de guerre. Difficile de vérifier les chiffres, mais selon tous les témoignages, leur nombre est assez conséquent et ces militaires, il faut les remplacer.
Et comment faire, Denis?
Tout d'abord, on pourrait imaginer imaginer un effet patriotique, comme quoi c'est le moment pour s'engager et défendre la patrie qui est attaquée. Sauf que l'ampleur de l'attaque a été minimisée par le pouvoir dans la presse et par, bien sûr, les médias d'État. Les mots forts n'ont pas été prononcés. Vladimir Poutine, lui, a été beaucoup moins réactif que lors de l'avancée de l'Ukraine sur son propre territoire en 2022. Pas de grande adresse à la nation. On est sur une hausse de 20-30 personnes par jour, c'est significatif, mais pas assez pour gagner la guerre. Face à cela, la Russie n'a pas annoncé la mobilisation, il n'y a même pas de rumeurs de ce genre, mais les télévisions russes, les appels à s'engager dans l'armée se multiplient. Voici les mots de Vladimir Solovyov, présentateur à la chaîne de télévision en Russie 1.
Наша родина в опасности. Вот если сейчас это не понять каждому гражданину Российской Федерации.
Que dit-il? Ah, pour Solovyov, la Russie est en grand danger et il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, qu'on ne peut pas tout simplement attendre la fin de la guerre. On se bat contre les satanistes, contre tout le mal du monde. Les appels à signer un contrat avec l'armée, on les entend de plus en plus souvent, les annonces se multiplient en ligne également. Il s'agit d'une campagne pilotée par l'État, mais est-ce qu'il est efficace? Pour l'instant, impossible de se voir.
Voilà pour ce point sur la situation concernant cette guerre en Ukraine. Denis Strelkov de la rédaction russe de RFI. Intéressons-nous maintenant à une réforme qui provoque bien des remous au Mexique. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, comme on appelle le chef de l'État mexicain en plus court, cédera le pouvoir à Claudia Sheinbaum le 1er octobre. Et sa réforme de la justice a déjà été approuvée par la Chambre des députés, pourrait également l'être par le Sénat dans les prochains jours. Mais Asbel López, de la rédaction en espagnol, des centaines de milliers d'étudiants des universités publiques et privées se sont mobilisés contre cette initiative. Pour quelles raisons ?
Le point le plus controversé de cette réforme judiciaire, mais aussi son pilier central, est l'élection des juges et des magistrats. Au lieu de garder leur poste de manière permanente après avoir réussi les évaluations appropriées, comme c'est le cas aujourd'hui, les juges et les magistrats devront chercher à obtenir les votes de leurs concitoyens tous les 9 ans. Leur maintien en poste dépendra de la campagne qu'ils mèneront, mais aussi de leur présence sur une liste préalablement établie par les partis politiques. Une telle proposition soulève bien sûr de nombreuses interrogations. Tyler Matiachi de Human Rights Watch nous a souligné l'un de ces problèmes.
El riesgo aquí es que tenemos jueces que dicen
Tyler Matiachi rappelle que les décisions des juges doivent être fondées sur le droit, sur la loi, et non sur leur popularité ou impopularité. Une fois cette réforme sera définitivement adoptée, on peut facilement imaginer un juge condamnant ou acquittant un accusé avec une seule idée en tête, ne pas perdre les votes nécessaires pour rester en poste pour les 9 prochaines années.
Et il y a un autre problème.
Et oui, les criminels comme les narcotrafiquants, qui sont particulièrement puissants au Mexique, pourraient tirer parti de ces nouvelles règles pour influencer l'élection des juges et des magistrats. C'est ce que craint Juan Alberto Rubalcaba, président du chapitre occident de l'illustre et national Collège des avocats du Mexique.
Et l'autre problème todavía más grave es el crimen organizado. Desde luego que el crimen organizado se puede infiltrar.
Quelle est son analyse?
Il y a un problème majeur, le crime organisé. Au Mexique, nous dit-il, le crime organisé est hors de contrôle. Je rappelle aux auditeurs, Philippe, que sous le mandat du président López Obrador, plus de 190 000 meurtres ont été enregistrés au Mexique. Cela représente un record pour ce pays. C'est environ 22% de plus que sous l'administration Peña Nieto et près de 58% de plus que sous celle de Felipe Calderón. Rubalcaba nous explique que les narcotrafiquants pourraient infiltrer le système pour imposer les juges de leur choix. Ce serait en quelque sorte la fin des juges issus exclusivement de la carrière judiciaire. Les futurs juges risqueraient d'être ballottés entre les intérêts politiques et criminels, conclut le président de ce syndicat d'avocats mexicain.
Et tout cela alors que le mandat de López Obrador est dans sa dernière ligne droite finalement.
En effet, AMLO cédera le pouvoir à la présidente élue Claudia Sheinbaum dans moins de un mois. Le président malgré tout a profité de la large majorité de son parti, Morena. En effet, au Mexique, on parle même de supermajorité. Mercredi, la Chambre des députés a donné son approbation au projet. Il est probable que le Sénat fasse de même et la réforme pourrait entrer en vigueur avant même l'arrivée de Sheinbaum.
La réforme est-elle inévitable et les Mexicains doivent-ils s'y résigner, Asbel?
C'est ce qui semble se dessiner, Philippe. Rubalcaba s'est dit très inquiet pour l'avenir du Mexique, soulignant que le pays risque de revenir aux époques du 19e siècle où un seul parti, le PRI, contrôlait tout le pouvoir. Cependant, il garde aussi un peu d'espoir. Écoutons une dernière intervention de Juan Alberto Rubalcaba qui sonne comme un appel à la démocratie.
La forma de frenarlo es la calle. Además de las acciones legales,
en fait, il dit que la rue, c'est ce qui pourrait freiner cette réforme judiciaire, selon lui. Il est vrai que des actions en justice ont été engagées, que les chambres de commerce, les universités, les professeurs et même le système interaméricain des droits de l'homme se mobilisent. Mais ce qui pourrait peser le plus, c'est la mobilisation des milliers de Mexicains dans les rues. Le week-end dernier, de nombreux étudiants ont manifesté. Selon Rubalcaba, la société civile mexicaine est majoritairement contre l'élection des juges. Ce sont eux qui devront prouver que ce projet va à l'encontre de la raison démocratique au Mexique.
Et bien évidemment, la rédaction espagnole de RFI suivra de très près Asbel López. Revenons maintenant sur le sommet Chine-Afrique qui a eu lieu cette semaine à Pékin. Hermine Roumilac de la rédaction chinoise, c'est un grand événement. Hein. C'était un grand événement pour le gouvernement chinois.
Bien évidemment, et toute l'Afrique, ou presque, est à Pékin. Donc un seul pays sur 54 sur le continent n'est pas présent. Donc ce pays est Eswatini qui reconnaît encore Taïwan et n'a pas répondu présent. Donc au moment où le pays connaît de la difficulté pour la reprise économique post-Covid, et les pays occidentaux ont une méfiance croissante de son expansionniste dans la région ou dans le reste du monde.
D'autant plus que le continent africain est convoité par beaucoup de pays pour ses ressources naturelles et son potentiel économique et son rôle géopolitique également dans les instances internationales.
Bien évidemment, mais la Chine est devenue au fil du temps son premier investisseur et le premier partenaire commercial de l'Afrique. Cette relation est traduite par les prêts aux sommes astronomiques. Donc Pékin a reconnu avoir accordé près de 183 milliards de dollars de prêts en Afrique autour de 23 dernières années. Donc il est connu que cette générosité n'est pas sans risque pour les deux côtés. Pour la Chine, de ne pas pouvoir être remboursée et pour les pays africains d'avoir des pièges de dette qui lui plongera probablement dans la crise. Bien évidemment, tout cela n'a pas été évoqué ouvertement pour ne pas cacher la fête trop parfaite.
Et la promesse du flot de prêts continue à couler pour ce qui est de cette année, en tout cas.
Oui, l'argent continue à tomber, mais je voudrais revenir un peu sur le discours du président chinois Xi Jinping, qui, lui, se positionne comme un défenseur du Sud global. Donc, le leader du Parti communiste a déclaré, pour commencer son discours devant ses invités, pour rappeler que la voie occidentale a infligé de profondes souffrances aux pays en développement, y compris la Chine, bien sûr.
Et sous-entendu, venez chez moi, vous souffrirez moins qu'avec les Occidentaux.
Bien sûr, on est dans le même bateau en plus, la Chine et les pays africains.
Alors tout cela a un prix ?
Bien sûr.
La Chine pose d'ailleurs ses conditions.
Oui, pour assurer la mise en œuvre de ces 10 actions de partenariat avec l'Afrique, le gouvernement chinois accordera à l'Afrique un soutien financier. Donc d'ici 3 ans, jusqu'au prochain forum sur les coopérations sino-africaines, la Chine promet d'engager 50 milliards de dollars au continent, répartis en crédits d'aide et investissements d'entreprises, sans préciser comment les répartir entre les pays, parce que 50 milliards divisé par 53 pays, ça fait même pas 1 milliard par pays. En échange, bien sûr, de ces largesses, les chefs d'État africains qui se sont succédés à la tribune au palais du peuple chinois ont tous remercié la Chine de sa solidarité. Aucun n'a oublié l'une de ses formules qui compte le plus aux yeux de la diplomatie chinoise. Donc, c'est le principe d'une seule Chine, soit leur soutien sur la question taïwanaise.
Mais le thème de ce sommet, c'était s'unir pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin de haut niveau entre la Chine et l'Afrique.
Tout à fait.
Comment peut-il commenter cela ?
L'agence Reuters a très bien résumé. Donc, il a rapporté en mai que les relations commerciales sino-africaines sont dominées par les minéraux et les pétroles, que cette exportation de matières premières vers la Chine n'est pas très différente des relations économiques extractives de l'Europe avait avec le continent pendant la colonisation. Même si la Chine dit toujours promouvoir une relation gagnant-gagnant, on doute que le gagnant-gagnant deviendra la Chine gagne deux fois.
On verra bien. C'était Hermine Roumilac de la rédaction chinoise et c'était Accent du Monde à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.